comprendre si tu ne nous éclaires par ta parole. Nous voulons te demander que tu nous ouvres aussi, comme le faisait Jésus, l'intelligence, pour que nous puissions comprendre dans les Écritures les choses qui te concernent et dont nous avons besoin pour vivre. Que tu nous donnes aussi ta clarté et un cœur qui accepte les vérités et qui se laisse corriger par elles pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés, mes amis, en ce matin du 20 février, à la poursuite de notre thème commencé hier soir. Quels sont les caractères d'un réveil spirituel? Et je voudrais simplement rappeler les trois textes, ou peut-être quatre, que nous avons cités hier soir. Quelques personnes n'étaient pas là. L'introduction, le souhait de bienvenue, se trouvait dans Romains 13, versets 11 à 14, où nous avons lu que c'était l'heure de nous réveiller du sommeil. Et j'espère que nous avons tous compris que dans cette retraite, nous allions tous être concernés. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Écriture qui dit « c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil, car le jour du salut est plus près de nous que le jour où nous avons cru. » Puis nous avons cité un autre texte qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, où il est dit « Ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais nous, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des fils du jour, des fils de la lumière. Nous sommes donc des gens qui sont censés veiller, qui ont peut-être dormi, qui se laissent endormir, mais qui, par l'action de la parole, se laissent réveiller. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Mais nous sommes dans la nuit. Alors il y en a qui dorment dans la nuit, mais il y en a aussi qui veillent. Je ne parle pas du sommeil naturel. Et nous avons terminé notre soirée par un autre texte, qui était le texte de la soirée surtout. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclaire. C'était dans Éphésiens au chapitre 5e. Vous vous souvenez du verset? Le verset 14. Et pour bien être sûr que nous sommes tous concernés par ces rencontres où nous parlerons du réveil, nous vous avons cité aussi quelle parabole, celle que nous sentons sans cesse, les 10 vierges. Et nous vous avons fait remarquer qu'aussi bien les sages que les folles se sont endormies. Toutes se sont endormies. Parce que l'époux tardait. Donc nous sommes tous enclins à nous endormir quand il y a un retard à une certaine attente. Alors nous nous assoupissons. Et qu'est-ce qui a réveillé les vierges? C'est la parole. Le cri de minuit. Sur le minuit, alors qu'elles étaient tous dans le sommeil, il se fit entendre cette parole, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors il y a eu un choc, il y a eu un réveil. Et celles qui étaient prêtes, les cinq qui avaient de l'huile dans leur lampe, ont pu entrer dans la salle des noces. Et pour bien vous montrer, je vous ai cité encore un autre verset, ça m'a édifié ce matin parce que l'un d'entre vous est venu me dire qu'il avait été frappé par ce texte et puis un autre qu'il avait fait ce rêve. C'est dans Ésaïe 29, verset 8, et ça arrive à beaucoup de chrétiens, on a faim, mais pendant notre sommeil, on rêve qu'on est en train de manger. trop une petite pizza du tonnerre, là, on s'enfile cela pendant notre sommeil, parce qu'on a faim. Mais le matin, qu'est-ce qui arrive? On a l'estomac vide. Vous voyez comme l'écriture est pratique, hein? Ésaïe 29, verset 8. Puis peut nous arriver aussi, ce qui est dit dans le même verset, d'avoir soif et de rêver que l'on boit. Ah, puis ça c'est bien. On se sent tout rafraîchi, mais voilà, quand on se réveille, on est épuisé et languissant. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais vous donner le goût de cette parole de Dieu. Non pas seulement lire les évangiles, lire les beaux psaumes, mais lire toute la parole de Dieu et y trouver vraiment cette nourriture et ce breuvage. Et je suis sûr que, même si vous avez trouvé les lectures longues et trop longues, puisque vous n'êtes pas arrivé au bout, qu'il y avait, même dans ces lectures, quelques versets qui pouvaient vous arrêter, sur lesquels vous pourriez revenir, et même partager et dire que le Seigneur vous a béni. Alors, nous avions posé trois questions. Quel exemple aurait dû parler au royaume de Juda? Si vous avez lu le deuxième chapitre des rois, au moins les versets 1 à 23, vous auriez vu que le royaume d'Israël, qui avant faisait partie aussi de Juda, c'était un seul royaume, mais à cause des péchés de Salomon et de Roboam, il y a eu la division et Dieu a envoyé des prophètes dans le royaume de Samarie, qui n'avait pas le temple. Mais les plus grands prophètes, les plus puissants en quelque sorte, ont justement été parmi le royaume du Nord. C'était qui, ces grands prophètes, qui étaient au milieu d'Israélites paganisés? C'était Élie et Élisée. Les prophètes que Dieu a suscités étaient réellement des hommes de Dieu extraordinaires. Mais ils n'étaient pas à Jérusalem, ils n'étaient pas là où il y avait le temple. On aurait pu même les critiquer et dire, mais ces gens-là, ils vont au milieu des païens, comme on dit aujourd'hui quand on va prêcher l'évangile, en dehors de nos milieux évangéliques, on est considéré comme des prophètes infidèles. Or, les prophètes fidèles, ils étaient essentiellement dans le royaume des païens. Et c'est là qu'ils avaient un témoignage, parce que Dieu aime aussi les païens et il a des vues de salut pour eux. Souvenez-vous toujours de cela. Alors ne jugez plus et priez. Quand l'apôtre Pierre, qui était pourtant un bon juif, qui n'avait pas de relation avec les païens, a été appelé par Dieu d'aller annoncer l'évangile chez Corneille, il y est allé. Mais quand il est rentré à Jérusalem, il s'est fait ramasser par les autres apôtres, qui lui ont dit « Comment es-tu allé chez les païens ?» Et il a dû leur expliquer comment Dieu lui avait appris à ne pas mépriser les hommes, à n'appeler aucun homme impur et pécheur. Et il avait obéi. Mais quand on obéit, on ne sera pas toujours compris. Vous pouvez être sûr de cela. Mais ce qui compte, c'est d'avoir obéi au Seigneur. C'est d'avoir vécu dans la dépendance du Seigneur, c'est d'avoir invoqué son nom et de ne rien faire qui puisse entacher son nom. Ce qui compte, c'est d'être attaché à qui? À une doctrine, à son Église d'abord? Au Seigneur de l'Église. C'est le Seigneur de l'Église, celui qui est au centre, qui doit nous attacher. Alors on est aussi attaché les uns aux autres en Église. Et on bénit Dieu pour l'Église qu'il nous a donné et avec laquelle nous nous rassemblons. Mais c'est la personne du Seigneur qui doit être au centre. Alors, ce royaume, malgré le témoignage de ses prophètes, ce royaume d'Israël, ils ont continué de pécher, vous l'avez vu, à un tel point que qu'est-il arrivé? Eh bien, la guerre et une nation plus forte qu'eux les a non seulement battu, mais emmené en captivité. Et tout cela, le royaume de Juda le voyait, le savait. C'était en quelque sorte leur frère. Mais eux, ils avaient le temple. Alors il ne pouvait rien leur arriver. Tandis qu'évidemment, les autres, c'était la punition de Dieu. Ils avaient élevé des veaux d'or à Bethel hein, et à Dan. Alors, c'était tout à fait normal que Dieu les ait punis, que Dieu punisse les autres à cause de leurs péchés. Alléluia hein. Mais nous nous imaginons pas qu'il pourrait peut-être aussi nous reprendre. Juda a vu ce qui est arrivé à Israël. Est-ce qu'ils ont compris? Non. À Jérusalem, où il y avait le temple, on continuait les offices, on était très pratiquants, mais on commettait l'iniquité. Et Dieu a patienté avec Juda longtemps, longtemps. Et alors c'est là que vous arrivez au deuxième livre des Chroniques. Et où vous voyez, comme nous allons le voir facilement et suivre après mais un peu ce que j'ai préparé, pour que ce soit clair pour vous, eh bien dans le deuxième livre des Rois, on voit le règne d'un Ézéchias, qui était un homme de Dieu, un roi suscité par Dieu et qui a été l'occasion d'un réveil. On a aussi le roi Josias, qui a été l'occasion d'un grand réveil. Mais les descendants de Josias, au lieu de suivre les traces de leur père, qui avait été réveillé par quoi, Josias? Par la lecture du livre. On avait retrouvé le livre, comprenez-vous? On avait retrouvé le livre de la loi, parce que vous savez, on oublie ces choses. Si vous ne lisez pas, vous ne ferez pas de progrès. Et voilà qu'en réparant le temple, une bonne chose que Josias faisait, eh bien, on a retrouvé le livre. Puis ils sont mis à relire le livre. Mais Josias, quand il a lu ce livre, il était pourtant tout jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, je ne sais pas s'il s'est arraché les cheveux, s'il en avait, mais enfin, il s'est humilié, vraiment, et non seulement pour lui-même, mais voyant la tête du peuple, le chef du peuple qui s'humilie, qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple aussi s'est humilié. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Un chef, on parle tout le temps de leader, mais qu'est-ce qu'on a comme leader? Un leader, c'est un homme vraiment qui est prêt à servir, qui est prêt à mourir pour que les autres vivent. On a vu ça avec Moïse, n'est-ce pas? Efface-moi plutôt de ton livre, mais sauve ces gens-là, et qui étaient pourtant des coupables et des pécheurs. Ils ne demandent rien pour lui. Nous n'avons rien à demander pour nous, mais nous avons tout à demander pour les autres. Parce que Dieu nous a tellement aimés, et maintenant, aimant de l'amour de Dieu, eh bien, on suit les traces de notre Sauveur. Ils ont eu aussi à Jérusalem des prophètes, dont un qui s'appelait Jérémie. Justement, Jérémie était un contemporain de Josias. Il avait à peu près le même âge que Josias. Ils ont été élevés ensemble. Et Jérémie a été employé pour parler aux gens de Jérusalem. C'est pourquoi, vous voyez qu'il faut lire les Rois pour savoir l'origine de Jérémie, puis ensuite, alors, vous lisez les prophéties de Jérémie, mais ça se lit. Et alors, ce que je voulais vous montrer, si vous aviez pu lire le chapitre 1er de Jérémie, vous voyez la vocation de Jérémie, et puis ensuite, dans le chapitre 7, comment ils prêchaient quand le temple était encore debout à Jérusalem, ce qu'ils leur disaient, ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge, disant c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, il ne peut rien vous arriver, mais réformez vos voies. Convertissez-vous vraiment au Seigneur, ça ne sert à rien d'être circoncis, ce n'est pas votre circoncision qui va vous sauver. C'est la circoncision du cœur. C'est de changer de voie, c'est de changer de principe, c'est de vous détourner de vos péchés, parce que sans ça, le temple de Jérusalem, il peut être détruit. Et voyez-vous, on va le voir cet après-midi, Dieu a patienté avec Jérusalem. Jérémie prêchait, et on le détestait, hein.
On a voulu le faire mourir parce qu'il avertissait qu'il y avait des jugements qui allaient venir. Quand on dit que les jugements vont venir, on n'est pas bien aimé. Hein. Il faut dire, mais non, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Il y a déjà eu des mauvais moments dans l'histoire humaine. Tout va bien s'arranger. Et puis on vous parle avec des fausses interprétations que le levain, c'est l'évangile et que finalement, Jésus a dit que le levain ferait lever toute la pâte hein, et que tout le monde allait se convertir. Mais le levain, justement, le levain, mes amis, c'est pas l'évangile, c'est une fausse doctrine qui est entrée dans la pâte pure de l'évangile et qui l'a corrompue. Et de ce pain-là, hein, ce pain levé, les gens n'en veulent plus. C'est vrai ou c'est faux? Vous croyez que les gens aiment la parole vraiment? Est-ce qu'ils la lisent beaucoup, la parole? Même dans votre Québec où vous avez maintenant la possibilité de lire la Bible? On est tanné de ces écritures, de ce vieux livre. On peut le lire, bien sûr, mais il faut faire des études pour le comprendre. Et puis quand vous faites des études pour le comprendre, on détruit votre foi. On en a parlé avec la sœur supérieure ici, hier encore, elle me disait cela. C'est terrible, n'est-ce pas? Dans les universités en théologie, eh bien, il y a des professeurs qui détruisent complètement la foi. J'ai parlé à un étudiant cette semaine qui m'a dit, eh bien, quand ses professeurs lui avaient dit que les paroles de Jésus-Christ, il les cherche dans l'Évangile pour voir lesquelles sont vraiment de Jésus puis celles qui ne sont pas de Jésus, mais qu'il a un trou encore, c'est la croix. Bien sûr qu'il a un trou, il ne l'a pas, la croix. Alors il y a un trou. Quand on n'a pas la croix, il y a un trou. Et bien, c'est ça qu'il nous faut retrouver, la croix, qui va donner un sens à toute notre vie. Bien que le Seigneur nous parle, Jérémie a travaillé, il se levait de bonne heure, lui, le matin. Alors, il a donné une prédication, et puis, les résultats de sa prédication. Je voudrais vous dire aujourd'hui, on met tant l'homme en avant. C'est très drôle, hein, on parle tout le temps des hommes de Dieu. Mais un homme de Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous y avez déjà songé? La valeur spirituelle d'un homme de Dieu, est-ce qu'elle se mesure à ses succès extérieurs, aux foules qu'il rassemble, aux conversions qu'il prétend avoir opérées? J'ai reçu dans mon vaste courrier international une lettre d'une femme parlant de son mari. Il a amené en 1987 des centaines de personnes au Seigneur. C'est beau. Comment est-ce qu'elle les a comptées? Enfin, son mari lui a dit qu'il y avait eu du succès. Hein. Bon, alors, on a amené des centaines de personnes. Alors, on envoie la circulaire, des centaines de personnes sont amenées au Seigneur. Vous me tuerez quand vous lirez ça dans une circulaire. Non, je ne vais pas vous inciter au crime. Le Seigneur m'aura tué avant. Mais il y a une chose, mes amis, que nous devons comprendre. Les résultats sont au Seigneur. Vous avez tout là, votre répétition. Une sœur de Saint-Hyacinthe, une sœur cloîtrée du précieux sang, qui m'envoie une petite image. C'est un arbre et il y a des fleurs. Et il est écrit, ces fleurs produiront des fruits. Et j'ai beaucoup aimé cela parce que ça me parle. Évidemment, mais pour qu'il y ait des fruits, il faudra qu'il y ait encore une bonne saison. Parce qu'il y a des arbres qui sont merveilleux au printemps. Mais à cause de la saison, les fruits ne sont pas là à l'automne. C'est parce qu'on ne peut jamais se glorifier. Réjouissez-vous d'un beau printemps. Mais priez. Puis si à l'automne, Dieu vous donne de voir des fruits, eh bien, louez le Seigneur. Mais n'essayez pas de parler de vos fruits avant. Les fruits, nous les verrons dans la gloire. Et Jésus lui-même, hein, si vous voulez mesurer sa spiritualité, évidemment, quand il prêchait au sermon sur la montagne, c'était merveilleux, il y avait des foules, et c'était beau, on aimait ce qu'il disait. Puis à la fin, au bout de 3 ans, quand il leur a montré que ce n'était pas seulement de belles paroles qu'il apportait, mais qu'il demandait qu'on vive cette vie qu'il avait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était un gêneur. On ne pouvait plus le supporter. Déjà, au cours de sa prédication, les disciples s'en étaient allés. Et puis, il n'y avait plus qu'un petit groupe. Et finalement, qu'est-ce qu'il a défendu? Personne. Tous sont partis. Et le monde religieux disait, mais si Dieu vraiment tient à lui, qu'il le délivre. Eh bien, quand vous lisez l'histoire de Jérémie, vous voyez un homme qui a été fidèle, mais qui n'a pas vu de résultat visible. Et nous allons voir, si Dieu nous permet d'arriver plus loin, un autre homme de Dieu, âgé, le prophète, mais dans un autre temps, qui lui a du fruit, pas parce qu'il est plus fidèle, mais parce que le temps est venu, parce que c'était l'heure. Mais quand on agit avant l'heure, on se trompe toujours. Et c'est charnel. Souvenez-vous de Moïse. Il a agi avant l'heure, c'était l'échec. Il faut savoir attendre l'heure de Dieu. Et c'est pourquoi vous avez, si vous aviez lu le chapitre 25, mais de Jérémie, c'est lui 25, oui. Eh bien, vous aurez vu que Jérémie dit, depuis 23 ans, je me suis levé de bonne heure et je vous ai enseigné. Et rien ne s'est passé. Tandis que dans Agée, vous allez lire qu'en l'espace de 23 jours après qu'il ait prêché, qu'est-ce qui s'est produit? Le réveil. Tout le monde était réveillé et servait le Seigneur. Tandis que pendant 23 ans, Jérémie les avait avertis que la ruine allait venir sur Jérusalem, et il y a eu des attaques. Il y a eu 3 attaques contre Jérusalem. Dans la première, Nebuchadnezzar a fait prendre des gens bien élevés de la classe royale, dont un qui s'appelait Daniel, avec 3 amis, Sadrach, Mésac et Abednego. Et ces gens de race royale ont été emmenés en captivité. Jérusalem était encore là, n'était pas détruite. Mais il y a eu une attaque et on a pris l'élite de la nation. Parce que le roi de Babylone voulait avoir des sages dans son royaume. Et il a pris les Hébreux, les Juifs, pour en faire ses ministres. C'est toute l'histoire de Daniel. Vous voyez comme ça se lit. Mais, bon, ben, on avait perdu quelques bons esprits, quelques grands esprits. Mais, enfin, la vie continuait à Jérusalem. Il y a eu une seconde attaque. Et dans cette seconde attaque, eh bien, Ézéchiel, qui était un prophète, lui aussi, a été emmené captif. Mais la ville était encore là. Il n'était pas à la même place que Daniel. Et puis, enfin, malgré les prédications de Jérémie, un jour est arrivé les armées de Nebuchadnezzar et ils ont détruit la ville. Avant, ils avaient pris tous les ustensiles qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les ustensiles en or, les coupes, etc. Et vous vous souvenez qu'un jour, le successeur du roi de Babylone, et qui s'appelait comment? Belshazzar, s'est permis, dans un de ses parties, de prendre pour boire du vin avec toutes les concubines possibles, et avec ses grands, ils ont pris les ustensiles du temple. Et qu'est-ce qui est arrivé dans cette nuit-là? Un certain homme qui s'appelait Cyrus, qui est devenu roi de quel royaume? Des Perses, est entré dans la ville, a tué le roi, et la fin du royaume de Babylone a eu lieu à ce moment-là, cette nuit-là, où une main avait écrit « Tu as été pesé et tu as été trouvé léger hein, » sur la muraille, et c'est Daniel qui avait interprété cette écriture. Et voilà un certain Cyrus dont nous allons parler dans la journée de demain, je pense. Eh bien, a été suscité par Dieu et est devenu celui qui a fait remonter de Babylone les captifs dont Jérémie avait prédit la durée de leur captivité. Ce serait combien de temps? 70 ans. Vous voyez que tout ça se recoupe. Mais si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, eh bien, vous n'y comprendrez rien. Et c'est pourquoi maintenant, je voudrais, comme une suite de ce que j'ai dit hier soir, vous montrer comment nous allons procéder. Donc, pour nous, l'heure est venue de sortir de notre rêve et de ne pas nous croire vraiment vivants, spirituels, réveillés, simplement parce qu'on est convertis. Oui, vous êtes converti, vous connaissez le Seigneur. C'est quand même terrible. Quelqu'un m'a dit dimanche dans une retraite, c'était un pasteur, il était navré de voir que des personnes de son église lui disaient « Vous savez, moi, je suis capable de présenter le plan du salut à quelqu'un. » Le plan du salut. Oui, je peux sauver les gens. J'en ai sauvé plusieurs. Hein. J'ai le plan du salut. Alors j'ai 1, 2, 3, 4. C'est les 4 lois spirituelles, j'ai rien contre. Mais, en tout cas, 1, 2, 3, 4, voilà, elle est sauvée. Vous arrivez en 4 minutes à faire ce travail. Bon. Ils acceptent, ils signent, ils sont sauvés. Alors, eux-mêmes, ils apprennent le plan du salut, puis ils vont vers une autre âme. T'es sauvé, toi? Non, t'es pas sauvé? Non. Eh bien, alors, voilà ce que tu dois croire. 1, 2, 3, 4. Vous faites le travail comme ça. Puis vous vous glorifiez d'avoir fait quelque chose. Puis qu'est-ce qui reste de tout cela? Au bout d'un certain temps. Attention, attention, c'est pas ça le réveil. Mission de réveil, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est qu'une mission de réveil? Disons d'abord mission d'évangélisation, apporter la parole de vie à ceux qui sont spirituellement morts pour qu'ils ressuscitent, pour qu'ils naissent de nouveau. Mais une fois nés de nouveau, ben ne pensez pas que c'est fini. La nouvelle naissance, c'est le commencement de la vie. Il faut continuer, la conversion c'est le début, il faut progresser et aller jusqu'au bout. On est assuré, je ne dis pas la personne qui croit, mais nous nous sommes assurés du salut de quelqu'un seulement en voyant la fin de sa course. Paul disait, pourvu que j'achève ma course. Parce que jusque-là, hein, on peut avoir trompé, on peut avoir été hypocrite, on peut avoir intellectuellement reçu les vérités du christianisme, on peut avoir dit oui, mais ce n'est pas seulement de dire oui une fois, c'est de le dire toutes les fois que Jésus nous demande d'obéir. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui vit avec lui, qui lui obéit. Celui qui obéit au Seigneur, c'est celui-là qui m'aime. Alors, veillons à cela. Et ne nous croyons pas réveillés quand nous ne serions qu'endormis. Parce que voyez-vous, le sommeil dans l'Écriture, et ça c'est tout un sujet, on pourrait faire toute une retraite sur le sommeil. Rendez-vous compte? Le sommeil. Le sommeil, ça revient un grand nombre de fois dans les Écritures. Et il nous est parlé de différents sommeils. Hier, nous en avons vu déjà quelques-uns. Il y a le sommeil d'Adam, mais qui est voulu par Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de ce sommeil? Ève, ça c'est beau, hein, quand c'est Dieu qui endort. N'est-ce pas? Pour que nous ne souffrions pas. Mais en vue de nous donner quelque chose de plus merveilleux. il y a le sommeil de Noé. Alors lui, il se déshabille. Bon, alors ça c'est à sa honte. Parce qu'il avait bu du vin. Et puis on a vu l'autre sommeil, hein, le sommeil de Samson, qui s'endormait sur les genoux de sa maîtresse, de Delilah. Bon, c'est pas un réveil que nous voudrions, celui-là. Il meurt aveugle. Et puis on pourrait en citer d'autres de sommeil. On a parlé du sommeil de Jonas, un prophète, hein, et qui désobéit, et puis par désobéissance, il est fatigué, il s'endort au fond de la cale. Et il doit passer par le sein du grand poisson pour s'en sortir. Alors, tout cela est intéressant et passionnant d'étudier ces différents sommeils, mais aussi de voir les réveils, comment Dieu s'y est pris pour réveiller tous ces hommes. Alors, voyez-vous, en ces jours, c'est de la Bible, et c'est à la Bible que nous allons demander nos lumières pour que nous sachions nous-mêmes, individuellement, de quel sommeil nous devons être tirés. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi l'année dernière nos retraites ici? Oui, eh bien, non, les retraites de l'année dernière. Hein. C'était donc notre message, un message trinitaire qu'on a traité en trois volets. Alors, l'année dernière, nous avons pu, sous le titre « Le Père de gloire », considérer verset par verset toute l'épître aux Éphésiens, hein, puisqu'il est appelé « Le Père de gloire ». Puis, dans un deuxième volet, nous avons vu « Le Seigneur de gloire », et nous avons survolé toute l'épître aux Corinthiens. Et puis, enfin, dans la dernière semaine en décembre, nous avons étudié le troisième volet, c'était l'esprit de gloire, et ça nous a permis de méditer sur la première épître de Pierre. Mais donc, on est resté tout le temps dans le Nouveau Testament. Alors, cette année, après avoir entendu les explications tant de Paul que de Pierre, puisque c'est cela qui nous a occupés, Dieu a mis dans mon cœur de vous conduire plus particulièrement dans ces pages de l'Ancien Testament que Jésus et les apôtres ont toujours appelé de quel nom? Les Écritures. Quand vous trouvez dans le Nouveau Testament le mot « les Écritures », c'est essentiellement de quelle partie qu'il est question? De l'Ancien Testament. Quand Jésus était là, l'Ancien Testament était complet. Les Écritures, de la Genèse à Malachie. Et mon but, c'est de vous donner le goût de cet Ancien Testament. Le goût de la parole de Dieu, afin que vous puissiez rencontrer le Christ et les choses qui le concernent, tant dans ce qu'on appelle la loi, que les psaumes et que les prophètes, les trois grandes parties de l'Ancien Testament. Jésus lui-même les a divisés ainsi. Dans Luc 24, quand il est ressuscité, eh bien, il parle aux disciples d'Emmaüs de la loi, des psaumes et des prophètes, et il les enseigne, il leur apprend tout ce qui le concerne dans l'Ancien Testament. Alors, il faut que cette parole divine puisse vous interpeller autant quand vous lisez les livres historiques que les livres poétiques. Qu'est-ce que c'est que les livres poétiques? Les psaumes, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. Que les livres prophétiques, il y en a quatre grands prophètes, mais il y a aussi 12. Petits prophètes, ils ne sont pas petits parce qu'ils étaient plus petits, mais parce qu'ils ont écrit moins long, comprenez-vous? Mais ce n'est pas leur valeur qui est qualifiée par petits prophètes, n'est-ce pas? Alors, il faut que vous puissiez trouver dans toutes les pages de l'Ancien Testament le Seigneur comme vous le trouvez dans les évangiles. Comprenez-vous bien cela? Il ne faut pas s'en tenir aux évangiles, parce qu'alors vous avez une très petite Bible. Il faut que vous connaissiez les Écritures. Et c'est cela notre mission, tant que nous avons un souffle de vie. Alors, Jésus ne disait-il pas aux Juifs de son temps, vous sondez les Écritures. Les Juifs lisaient les Écritures, hein, c'est vrai. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il disait, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voulez-vous avoir une conviction au sujet du Christ, lisez l'Ancien Testament. Et vous aurez une conviction. L'apôtre Paul employait l'Ancien Testament pour convaincre les Juifs de son temps, comme aussi les païens, que Jésus était le Christ. Et il y a des chapitres extraordinaires et merveilleux dans l'Ancien Testament qui nous montrent cela. Mais Jésus ajoutait, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, c'est ça. Vous connaissez les Écritures, mais au fond, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens aujourd'hui, beaucoup connaissent les Évangiles. Hein? Ils connaissent l'histoire du bon Samaritain, ils connaissent l'histoire du fils prodigue, mais ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Ils peuvent réciter les béatitudes, ils peuvent réciter la salutation de l'ange à Marie et la répéter à toute vitesse. Ils peuvent aussi réciter le Magnificat, mais ils ne viennent pas pour autant à Jésus. Et c'est ça qui brise mon cœur. On a la connaissance, mais on n'a pas l'obéissance. C'est pourquoi il y a une petite conférence là, que j'avais faite il y a bien longtemps, mais qui dit connaissance ou obéissance. On a une certaine connaissance, et au Québec aussi, mais est-ce qu'on obéit? Et quand Jésus fut ressuscité, eh bien, nous apprenons qu'il faisait brûler les cœurs de ses disciples avec lesquels il marchait sur le chemin, parce qu'ils n'étaient pas dans une synagogue, ils étaient sur la route. Mais quelles sont nos conversations sur la route? Jésus s'approche de ces deux hommes qui étaient en train de discuter d'un grand événement qui s'était passé à Jérusalem, et il leur demande, mais qu'est-ce qui vous préoccupe tellement? Et pourquoi est-ce que vous avez l'air si pris? Jésus s'est tenu à votre porte. Il vous a vu passer et il a regardé vos visages. Pensez un petit peu qu'il vous regarde. Puis il dit, pourquoi est-ce que vous êtes pris? Ayez un entretien avec moi. Et c'est ça une retraite, que vous puissiez avoir un entretien avec le Seigneur, que vous puissiez lui dire la cause de votre tristesse. Et le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous aidera. Et vous savez, mais par quoi les a-t-il aidés? Par les Écritures, c'est en lisant les Écritures. Puis quand Jésus a disparu de leurs yeux, lisez le chapitre 24, qu'est-ce qu'ils disent? Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Oh, si nous avions des auditeurs dont le cœur brûle quand on leur parle de Jésus qui veut devenir leur bien-aimé et de ce Jésus auquel ils veulent s'attacher d'une façon vivante et personnelle. Alors il y aura la vie dans les églises. Si chacun était attaché, non pas simplement au pasteur ou au prêtre, mais était attaché à la personne de Jésus. Il y aurait de l'amour, parce qu'on ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer ce que Jésus aime. Ça, c'est pas possible. Votre spiritualité dépend de votre relation avec Jésus. La semaine passée, nous avions le sujet de la communion fraternelle dans une sainte retraite, dans une sainte semaine, et c'est cela que nous avons souligné. La communion fraternelle, donc entre frères et sœurs, dépend de la communion personnelle que vous avez avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Parce que c'est toujours un message trinitaire. C'est de là que découle notre communion fraternelle. Mais quand ça ne va pas avec le Seigneur, ça ne va pas non plus avec nos frères. Et quand ça ne va pas avec nos frères, on devrait se poser la question, mais est-ce que ça va avec mon Seigneur. C'est comme ça qu'on progresse. Société questionnée. Et vous voyez que dans ce même chapitre 24 de Luc, nous lisons que Jésus à Jérusalem a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors, si c'est vrai cela, je crois que cette prière, il l'a fait aussi pour vous, qui êtes à Châteauguay. Le Seigneur, par son esprit, peut vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez comprendre les Écritures sans même avoir dû passer par l'université ou je ne sais quelle autre école. Et l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Romains, qu'est-ce qu'il leur disait? Chapitre 15, verset 4, pour ceux qui aiment reprendre, parce que j'ai toujours dit, la retraite, c'est un moment que nous passons, mais j'ai plus confiance à l'après-retraite, quand vous retournez chez vous, et puis que vous digérez, que vous mangez, que vous reprenez ce que vous avez lu. C'est pourquoi il vous faut avoir une Bible quand vous venez ici. J'ai contrôlé, j'ai regardé là, de l'autre côté, dans l'autre salle, ils ont tous leur petit lit, hein. Ça c'est vrai, là, ceux qui font du yoga. Alors vous, au moins, vous devriez avoir vos Bibles. Alors, Paul, écrivant aux Romains, leur disait ceci, chapitre 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Ce qui a été écrit d'avance, c'est l'Ancien Testament, hein. Afin que par la consolation que donnent les Écritures, il y a tant de gens qui ont besoin d'être consolés, qui viennent vers nous, pour qu'on les consomme, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je ne veux pas consoler tout le monde, moi. Je veux bien, de tout mon cœur, de toute mon âme, mais qu'est-ce qui peut vous consoler? Les Écritures, alors je vous ramène à cela. Les Écritures. Si vous les lisez, vous serez consolé. Mais si vous ne les lisez pas, vous pouvez venir vers moi puis repartir. Il est bien gentil, mais je ne suis pas consolé. Qu'est-ce que vous auriez voulu? C'est ça, mes amis, qu'il faut comprendre. C'est par la consolation que donnent les Écritures que vous posséderez quoi? L'espérance. Voyez comme c'est clair, comme c'est net. Pas besoin d'aller chez le psychiatre pour ça. J'ai rien contre les psychiatres, c'est pas ça que je veux dire. Mais... Il y a une consolation qui est donnée par les Écritures pour que nous possédions l'espérance. L'espérance. Au lieu de voir toujours le trou. L'espérance. Romains 15, verset 4. Puis le même apôtre, dans les lettres aux Corinthiens, il soulignait que tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël doit nous servir d'exemple. Et que cela a été écrit pour nous avertir à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, verset 11. Je vous montre bien cela pour que vous compreniez ma méthode. Il faut d'abord que vous soyez convaincus que c'est important de lire l'Ancien Testament. Et que ceux qui vous disent, mais dans l'Ancien Testament, il y a des histoires abracadabrantes, et puis il y a des scandales. Oui, vous aimez mieux les voir, les scandales au cinéma, ça je le sais, oui. Le péché en cette couleur. Mais dans l'Écriture, hein, le péché, il vous est montré. C'est ce qui se passe dans ce monde. Mais ça nous répugne quand nous lisons ça dans la parole, que certaines personnes ont fait certaines choses. On a une répulsion. Et c'est parce que le livre est saint. C'est un livre saint. Il n'y a pas de tabou dans la Bible, mais tout est saint. Et vous avez une saine réaction. Tandis que le cinéma, les vues, tout ce que vous voulez, la télévision, ça fait passer le péché. C'est le péché sous les fleurs. Ça le fait entrer. C'est la piqûre. Et ça entre. Et ça vous empoisonne. Vous avez les pensées empoisonnées. Et après, vous faites des dépressions. Alors, attention, hein. Quelles sont vos lectures? Croyez-le. La parole de Dieu, elle ne nous tue pas. Elle nous fait vivre. Alors, l'apôtre Paul, à la fin de sa course, ce Paul qui travaillait parmi les païens, il a écrit dans son testament spirituel à Timothée, cette parole que j'aime à citer, chapitre 3 de la deuxième à Timothée, versets 16 à 17, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé pour toute bonne œuvre. Vous désirez œuvrer pour le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient faire quelque chose pour le Seigneur. Eh bien, d'abord, préparez-vous par la lecture de la parole. C'est comme ça que vous serez prêt pour toute bonne œuvre. Sans cette lecture de la parole, vous irez avec votre imagination, avec votre bon vouloir, et ce sera l'échec retentissant. Et voyez-vous, au soir de sa vie, Paul était tellement convaincu que c'est la parole qui compte, qu'il adjure son enfant dans la foi, Timothée, chapitre 4 de la deuxième épître, à prêcher la parole, à insister en toute occasion, favorable ou non, à exhorter avec toute patience et en instruisant. Et il ajoute qu'il viendra des temps difficiles, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On a reçu une lettre d'Égypte l'autre jour où un prédicateur disait qu'il était en train de chercher un moyen pour rendre l'évangile plus attrayant. Et écoutez, l'évangile, vous pouvez prendre n'importe quel moyen, l'évangile, c'est l'évangile. Et le résumé de l'évangile, c'est renonce à toi. C'est ce que Jésus a dit. Renonce à toi. Comment rendre l'évangile attrayant? Vous voyez, on est piégé avec ça. On veut rendre l'évangile acceptable. Mais vous dire que vous êtes sauvé par un crucifié, pour le monde, qu'est-ce que c'est? C'est une folie. Et puis pour les gens religieux, c'est un scandale. Hein? Pour les juifs, c'est un scandale. Que s'il était réellement le Fils de Dieu, que Dieu l'ait laissé crucifié. C'est justement là qu'on a vu, s'il est le Fils de Dieu, qu'il le délivre. Or, il ne l'a pas délivré. Alors ne me dites pas qu'on peut être sauvé par là. Eh bien, Paul, il a prêché la croix, qui est pour le monde un scandale, et qui est pour les intellectuels, les intelligents, une folie. Il n'a pas voulu rendre sage la folie et annuler le scandale. Et c'est comme ça qu'il y a eu des vraies conversions. Parce qu'ils étaient convertis au Seigneur. Et c'est cela qu'il nous faut. Mais pas un message édulcoré qui plaise à tout le monde, où l'on vous dit que si vous acceptez Jésus-Christ, tout ira bien pour vous, bande de menteurs. Si on vous dit que tout ira bien pour vous, c'est là que les épreuves vont commencer. Puis alors vous serez découragés. Mais de toute façon, dans le monde, il y a des épreuves. Mais quand on est averti qu'on passera par des épreuves, mais qu'on peut avoir une force pour les traverser, alors on n'est pas découragé, on reste dans l'espérance. Et on voit tous ces gens dans l'Écriture qui ont passé par l'épreuve et qui sont restés debout. C'est un mot que vous aimez bien au Québec, hein, être debout, nous tenir debout. Hein. On se tient debout. Ah oui, c'est bien. Mais il y en a un qui est debout pour nous, c'est Jésus. Dans le ciel, il se tient debout pour nous devant le Père. Et ses prières, elles sont toujours exaucées. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, tant que le Seigneur est là, nous savons que nous ne sommes pas laissés seuls. Alors, Paul dit à Timothée, je t'en adjure par le Dieu qui va juger les vivants et les morts, prêche la parole. Eh bien, c'est tout ce que je désire faire, parce qu'aujourd'hui, on a une foule de gens religieux, ils veulent bien maintenant des réunions, mais ce que vous remarquez, c'est toujours de plus en plus festival. C'est la fête. Hein. Partout, il faut que ce soit la fête. Grande musique, quitte à vous assourdir les oreilles,
et puis une excitation religieuse à un point que vous montez comme une fusée, comme je le dis quelquefois, puis tout à coup vous vous désintégrez, paf, vous tombez hein, en mille morceaux. Ça existe, les images du jour. C'était bien parti, brrrr, un bruit tonnerre, hein. Et voilà, c'est nos réunions quelquefois, hein. Puis après, ça retombe. Une fois qu'on est hors du circuit, c'est pas être dans le circuit, c'est que Jésus soit en nous. Il nous faut la réalité, frères et sœurs, et c'est ça, un jour j'aurai à répondre de toutes mes paroles devant Dieu, alors j'y pense. Donc, vous l'avez compris maintenant pourquoi je vous ai fait lire dans l'Ancien Testament, c'est parce que mon désir, c'est que vous commenciez à y goûter. Hein. Mais quelquefois, quand on commence à lire, on n'y a pas très goût. Je me souviens d'un céramique qu'on avait une fois chez nous, et puis ma femme avait fait un repas, quelque chose que cet ami n'avait jamais mangé. Et puis, elle lui a demandé, comme toutes les ménagères, demander s'il avait aimé. Il a répondu une phrase que je n'oublierai jamais, que j'ai trouvée admirable. Vous savez, la première fois, on n'aime pas tellement. Et après, on s'habitue. C'était magnifique, parce que c'était vrai. Et il était droit, il était vrai. Et cet homme, je le chéris dans mon cœur. Et il est venu ici, à nos retraites. Mais c'est ça, il faut être vrai. Hein. Quelque chose qu'on n'a jamais mangé, ben, oui, on le mange. Mais ensuite, on y prend goût. Alors même si ça ne vous a pas trop donné ce matin, hein, ben continuez. Vous allez voir tout à coup, tiens, j'avais pas vu ça. Tiens, ça a du goût, ça a du bon sens. Vous l'entendez cette parole au Québec, hein? Ça a du bon sens. Alors, voilà, nous allons continuer ainsi. Maintenant, je vais encore vous dire une petite chose pour qu'on puisse bien comprendre, parce que c'est pas ma retraite, c'est une retraite que nous faisons ensemble avec le Seigneur. C'était au sujet du réveil. Pourquoi? Où est-ce que j'ai mis cette feuille? Notre thème, donc, c'est quels sont les caractères d'un réveil. Et comme je l'ai dit hier, nous avons pensé traiter ce sujet en trois volets. Dans cette retraite d'aujourd'hui, dans ce premier volet, nous voudrions arriver à la fin de notre retraite à ce que tous soient convaincus qu'un des premiers caractères d'un réveil authentique consiste à replacer la croix au centre de notre prédication, au centre de la vie des croyants et au centre de la vie des communautés chrétiennes. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Puis, en octobre, si nous y arrivons, nous développerons le deuxième volet, ayant pour titre « La maison édifiée sur ses fondations ». C'est l'Église, le rassemblement des croyants et les difficultés qui peuvent arrêter le travail. Le développement de la communauté. Alors là, nous trouverons surtout nos exemples dans le livre d'Esdras, de Daniel, du prophète Agée et du prophète Zacharie. Et en novembre, si nous y arrivons, nous présenterons un troisième volet, les murailles sur leur emplacement. que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la première chose qui a eu lieu dans un réveil, c'est qu'on a replacé l'autel à Jérusalem sur son emplacement. Il avait été détruit. On a remis la croix, si vous voulez, aujourd'hui, sur ses bases. L'autel, c'est le lieu où on offrait des sacrifices. Puis, ensuite, on verra la maison a été mise sur ses fondations, et finalement, les murailles qui nous montrent la séparation d'avec le monde et notre protection. Il y aura donc une suite, mais je dirais que dans chaque exposé, dans chaque retraite, eh bien, nous essayerons de traiter un sujet complet. Aujourd'hui, ça sera un sujet complet, enfin aujourd'hui et demain, hein, mais il y aura une suite. Ceux qui pourront venir, ou les nouveaux qui viendront, eh bien, ils auront un sujet complet, mais ce sera sur la maison. Et puis, la fois suivante, sur les murailles. Et ceux qui auront pu faire les trois, eh bien, auront une base solide. Alors, il peut être utile que je vous dise encore un mot sur ma motivation. Pourquoi est-ce que j'ai proposé ce sujet? C'est parce qu'il n'est pas rare qu'au Québec, en particulier, on entend dire dans les milieux évangéliques que notre belle province vit un grand réveil. Vous l'entendez, ça, hein? On vous parle dans vos églises d'un réveil ou qu'il faut continuer le réveil, le réveil, le réveil. On entend bientôt plus que cela, c'est le temps du réveil. Oui, c'est l'heure de nous réveiller, mais attention. Et on voit des nouvelles communautés qui poussent, elles voient le jour, le nombre des membres de ces communautés se multiplie, des salles modernes et de belles chapelles se construisent, alors que les grandes églises établies depuis longtemps se vident. Les prêtres le disent, n'est-ce pas? Et rencontrent des problèmes financiers multiples, ne serait-ce que le problème du chauffage. Quand il y avait 5000 personnes dans une messe, hein, puis que maintenant il n'y a plus que quelques personnes, et puis qu'il y a toujours le même édifice, vous comprenez bien que ça coûte. Alors, presque chaque dénomination évangélique a maintenant aussi son école biblique, vous avez remarqué, elle pullule les écoles bibliques. Chaque groupe veut avoir son école biblique pour former ses pasteurs à sa manière. Tout cela, évidemment, ça coûte beaucoup. Et alors, ben, on dit, ben, c'est les fruits du réveil. Et dans mes voyages, puisque je voyage pas mal, en Europe pour l'évangile, il n'est pas rare que j'entends des gens qui me demandent « Ah, vous allez nous donner des nouvelles du Québec, hein? Ce soir, vous allez nous parler du Québec. » Je ne suis pas venu pour vous parler du Québec. Vous m'avez demandé de vous annoncer l'Évangile. Je suis venu pour vous annoncer l'Évangile. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe ailleurs. Je vais vous parler de l'Évangile, je vais vous parler du Seigneur. Alors, mais enfin, je n'échappe pas à cette question. Et plusieurs croyants s'offrent même à venir dans cette province pour épauler ceux qui y travaillent ou pour trouver au Québec une fonction pour l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas dans leur pays. Pourquoi ça va si bien au Québec, hein? Puisqu'on dit qu'il y a un réveil au Québec, ben j'aurais peut-être ma place. Mes chers amis, pour travailler pour le Seigneur, il faut être appelé. On a oublié cela. Si je n'avais pas été appelé il y a plus de 50 ans, mes amis, je ne serais pas ici ce soir. Si ce n'est pas un appel de Dieu, il y a trop de souffrance dans le ministère, il y a trop d'incompréhension pour qu'on puisse tenir le coup. Il faut un appel du Seigneur. Et il parle encore, ce Seigneur, et il appelle. C'est vrai qu'une porte est ouverte pour l'Évangile aujourd'hui au Québec, porte qui était fermée autrefois quand la religion officielle du Québec dominait et que le clergé était tout puissant. Et le fait que la lecture de la Bible a été autorisée par ceux-là même qui l'interdisaient a beaucoup aidé au changement de climat que nous connaissons au Québec. Ceux qui ont connu l'ancien climat peuvent en parler. Qu'est-ce qu'on voyait dans des maisons autrefois? Une grosse Bible. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas la Bible. Il y avait la grosse Bible blanche, pour ceux qui avaient un peu d'argent, Et puis la Bible rouge, n'est-ce pas, mais la grosse Bible pyroclameur, elle était là, mais fermée, sur la table. C'était un livre qu'on respectait, mais le curé ne voulait pas qu'on la lise, hein, parce qu'il aurait fallu avoir toutes sortes d'explications et de connaissances. Il y en a quand même qui l'ont lu. Mais c'était un gros volume, alors vous ne voyez pas sortir avec votre gros volume pour faire un voyage. La Bible restait à la maison. Bon. Et puis, elle n'était pas pour toutes les bourses. Il y avait de ces belles Bibles, j'en ai vu, dans certaines familles. Mais dans d'autres familles, il n'y avait pas de Bible. Alors, maintenant, il y a des éditions petit format, vous voyez, en soi, c'est pas le plus petit, hein, et qui permettent d'avoir les Écritures dans notre poche, ou pour les femmes, dans leur sacoche. Et même, on a fait le Nouveau Testament format paquet de cigarettes, qui mettent là, puis au lieu d'en tirer une, ils tirent un verset. D'accord ? Oui. Voilà. Quelqu'un m'a dit ça, oui. Mon fils a travaillé 10 ans dans la société biblique, il connaissait bien ça. Et puis non seulement cela, mais on a fait aussi la Bible en français courant, qui a vu le jour, qui est bien appréciée, pour aider ceux dont le vocabulaire était plutôt restreint. Et même maintenant, il est en train de se faire ce qu'on appelle une édition en français fondamentale, mais qui s'appellera en français international, c'est-à-dire tout ce que les autres nations francophones peuvent savoir en français, hein, mais ce sera encore plus simplifié. Elle est en chantier, mon fils y travaille en particulier. Et il y a déjà plusieurs livres qui sont sous impression. Et c'est spécialement pour l'Afrique que cela est fait. Les structures seront très simples et les phrases très courtes. Mais revenons maintenant au mot réveil que nous avons employé pour annoncer le thème de nos retraites 88. Parce qu'il est toujours important de bien comprendre le sens des mots que nous employons. J'ai mis quels sont les caractères d'un vrai réveil. Vous savez ce que c'est qu'un caractère, hein? C'est un signe, c'est un trait distinctif, c'est une marque, ce qui est authentique, ce qui est propre à une chose. Qu'est-ce qui est propre vraiment au réveil? Parce que faut pas employer le mot réveil à toutes les sauces. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui est la marque d'un vrai réveil, d'un authentique réveil? C'est ça, le mot caractère. Maintenant, le mot réveil, qu'est-ce que c'est le réveil? Littéralement, c'est le passage du sommeil à l'état de veille. Voilà ce que vous disent les dictionnaires. C'est un retour à l'activité, ou c'est revenir à la réalité. C'est une prise de conscience de notre état réel. Quand on somnole, on ne sait pas trop où on est. Tout d'un coup, on se réveille, hein. Alors, on a appelé réveil religieux l'ensemble des mouvements spirituels qui ont marqué surtout la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, spécialement dans le protestantisme. On appelait ça réveil. Et dans l'Église catholique, pour ne pas employer le même mot que les protestants, on a appelé ça, allons trouver le renouveau. Hein, mais c'est un peu la même chose, hein, réveil ou renouveau. Alors il y a le renouveau charismatique, et il y a bien des protestants maintenant qui aiment aussi mieux le mot renouveau que réveil, parce que réveil, eh bien, c'est devenu un peu vieux jeu. Mais c'est de la même chose qu'il s'agit. Le réveil, c'est donc un renouveau, une reprise, et essentiellement, bibliquement, un retour à la foi et à l'évangile. L'âme qui s'est endormie sous l'indifférence des dogmes même, se réveille sous une influence qui peut être intérieure ou extérieure. C'est peut-être une lecture. Et c'est pourquoi je crois que le réveil vient essentiellement de la lecture de la Bible. On a lu la Bible. Combien de gens m'ont dit que c'est par la Bible qu'ils ont été réveillés, amenés au Seigneur? une lecture, ou bien alors une prédication. On a entendu une prédication et ça nous a touché sur un point précis, ou un appel, ou quelquefois c'est une épreuve. Tout à coup, Dieu emploie une épreuve pour nous réveiller, parce qu'on était drôlement en train de dormir, comme Jonas. Hein. Une épreuve qui nous ramène à la conscience de notre valeur et de nos intérêts. L'âme rentre en elle-même, elle reconnaît des torts, des illusions, des vanités, des péchés, et une corruption qu'elle ne soupçonnait pas auparavant. Hein. C'est ça, réveil. Tout d'un coup, on a une autre idée de ce qu'on est. Hein. On se croyait tellement bon, on n'avait fait de mal à personne, on n'avait jamais tué une mouche. Et puis, voilà que tout à coup, on voit que on n'est pas si bon que ça. On nous a toujours dit, mais tu as un bon fond, oui, un bon fond. Puis tout à coup, on est horrifié de voir ce qu'il y a dans le fond. Vous avez passé par là? Mais c'est épouvantable. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire, je suis perdu. Parce que sans ça, si on vous dit simplement, si tu reconnais que tu es un pécheur, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tu es perdu. Hein. Tout le monde est pécheur. Mais il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous convainque. Et quand vous avez vu l'abîme de votre nature, alors vous avez horreur de vous-même. Un prédicateur ne peut pas vous faire avoir horreur de vous-même. C'est le Saint-Esprit. Et alors, ayant découvert son vrai état, on a des besoins nouveaux. On n'a pas besoin de nous supplier d'accepter le Seigneur. Comprenez-vous ? On n'a pas besoin de nous tanner pour qu'on accepte le Seigneur. Une personne qui est en train de se noyer, puis qui ne sait pas nager, quand quelqu'un lui jette la corde, est-ce qu'elle hésite? Elle la prend. Vous comprenez? Elle la saisit, on n'a pas besoin de la convaincre, à moins qu'elle veuille se suicider. Mais on saisit, ou bien, si quelqu'un se jette à l'eau, il se laisse prendre parce qu'il veut être sauvé. Alors il y a donc dans l'Écriture des réveils individuels, des réveils collectifs, et l'Ancien Testament nous en montre plusieurs. Ce que je voudrais souligner, c'est que la source de tous les réveils, elle se trouve dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Notez bien cela. La source de tous les réveils se trouve dans la fidélité à ses promesses. Le Seigneur a fait a donné sa parole. Il a fait des menaces aussi. Est-ce qu'il est fidèle à ses menaces? Oui. Prenez le Seigneur au sérieux, il a fait des menaces. Il y avait des menaces sur le peuple d'Israël. Il y en avait sur le peuple de Juda. Et malgré sa grâce, un jour, la patience de Dieu prend fin et alors, ses menaces s'exécutent. Mais même quand Dieu fait des menaces, il ne peut pas s'empêcher de faire des promesses. Il dit oui, mais après, s'ils reviennent, eh bien, j'userai de grâce. Alors, c'est ça un réveil. C'est qu'après les menaces qui ont été exécutées, Dieu se souvient de ses promesses. Et c'est là que nous disions ce matin, n'est-ce pas? Nous lui disons, réveille-toi, Seigneur. Mais nous n'aurions pas dû nous endormir. Parce que le Seigneur ne peut pas agir avant le temps. Et là, il faudrait avoir plus de temps pour vous dire tout cela. Mais souvenez-vous, le Seigneur, le réveil, eh bien, il a sa source dans les promesses de Dieu et dans sa fidélité. Et non pas d'abord dans la spiritualité des âmes qui bénéficieront de son intervention. Ne pensez pas que s'il y a un réveil, c'est parce que nous sommes mûrs. C'est parce que Dieu est fidèle et que le temps est venu. La source du réveil ne vient pas d'abord de la spiritualité des âmes qui bénéficient de l'intervention de Dieu, mais de la fidélité de Dieu à ses promesses. De sorte qu'il y a un réveil, toute la gloire vient au Seigneur. Maintenant, deuxième point. Les instruments que Dieu emploie pour susciter un réveil sont des hommes que Dieu a choisis. Moi, je ne peux pas vous dire, vous savez, j'ai envie de devenir un homme de réveil. Misère, va coucher alors. Tu veux devenir un homme de réveil? Accomplis d'abord ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. C'est pas cette ambition, devenir un homme de réveil. Qu'est-ce que Jésus a voulu devenir? Il était Dieu et il a voulu devenir un homme. C'était descendre plus bas que les anges. C'est ça, la vraie direction spirituelle. Il était Dieu et il s'est fait homme. Plus bas que les anges à cause de la passion de la mort. Alors, les instruments que Dieu emploie pour susciter un réveil sont des hommes qui sont choisis par Dieu. Comme nous le verrons, ça peut être un roi païen, Cyrus. Ça pourrait être Gorbatchev. Oh, mais vous n'y pensez pas. Ça ferait bien mieux que ce soit un télé-évangéliste. Attention. Un télé-évangéliste américain, c'est pas toujours très sûr. Alors faites attention, hein. Dieu est libre dans ses choix et il pourrait encore nous étonner. Et vous devriez prier aussi pour les Russes, comme moi je dois le faire. Maintenant, une autre chose, l'heure du réveil, elle n'est jamais celle de l'homme, mais elle est celle de Dieu. Souvenez-vous bien de ces trois points, hein. La source du réveil, les instruments que Dieu emploie, et puis l'heure du réveil, c'est pas notre heure, c'est l'heure de Dieu. Mais nous avons vu, c'est déjà l'heure de vous réveiller. Alors, on pourrait citer quelques exemples. Je les cite brièvement. Dans Genèse 15, versets 13 à 21, vous voyez Dieu qui parle à Abraham, il a choisi Abraham, et il lui annonce qu'il serait le père d'un grand peuple, mais que ce peuple devrait passer combien d'années dans un pays étranger, dans la servitude? 400 ans. Mais qu'après 400 ans, il susciterait un libérateur pour libérer ce peuple de ses oppresseurs. Et ça est arrivé, n'est-ce pas, ce que Dieu avait dit. Ça est arrivé quand? Au temps de Moïse. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était encore en Canaan. Il n'avait pas encore Isaac, ni Jacob et toutes ses tribus. Mais après Joseph, donc, le peuple s'est trouvé en Égypte. Les 400 ans ont passé. Et puis même un homme qui ne devait pas vivre a survécu. C'était qui? Moïse, qui était marqué dès sa naissance pour la mort. Puis Dieu le fait vivre, malgré le décret du roi. Vous voyez, quand l'heure est venue. Mais voilà, Moïse vit. Il a une mère et qui l'enseigne, puisqu'elle a été sa nourrice, payée par les allocations de la fille du Pharaon. C'est quand même fantastique comme Dieu fait les choses. Et il a été élevé à la cour du roi, il a passé par les meilleures écoles, et quand il a eu 40 ans, lui qui avait le souvenir de ce que sa mère lui avait enseigné, qui n'avait pas oublié son peuple hébreu, il a voulu intervenir pour son peuple. Vous avez ça dans le chapitre 7 du livre des Actes, où Étienne en particulier nous montre comment ce que croyait Moïse. Moïse y est allé en croyant, ben voilà, je suis l'homme choisi par Dieu. C'est l'heure maintenant de délivrer mon peuple qui crie, et il le voyait de ses yeux, Moïse. Et il a voulu intervenir quand il est en pleine force et en pleine forme. Hein. On me demande toujours si je suis en forme. C'est pas quand je suis en forme, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, au lieu de délivrer son peuple, a tué, est devenu un criminel, en fuite, et a été 40 ans à l'écart, au désert, chez son beau-père, qui s'est marié,
et c'est à 80 ans, alors qu'il était derrière le désert, conduisant les troupeaux de son père, qu'il a été appelé. Moïse, Moïse. Ah, c'est ça l'appel. Hein. Alors, à ce moment-là, il dit, non, non, Seigneur, envoie un autre. Mais on n'a plus de prétention quand on a fait ces expériences. Envoie quelqu'un d'autre. Et puis Dieu lui dit, mais non, c'est toi que j'ai choisi, tu iras, et c'est lui qui délivre Israël. Et maintenant, on pourrait vous parler de ce réveil qui a eu lieu au temps des juges. Et c'est une femme qui a été employée pour ce réveil. Chapitre 4 et 5 du livre des juges, c'est un chapitre merveilleux que j'aurais aimé pouvoir vous lire et où vous voyez ce que Dieu fait. Dans sa grâce, Dieu a accompli ses promesses pour Israël, Israël est sorti d'Égypte, Israël a conquis Canaan, mais même une fois en Canaan, Israël s'est de nouveau assoupi, s'est endormi. Et alors, il y a eu Jabin, et le roi Jabin, et son général, qui s'appelait Sisra, hein, qui était chef d'une grande armée, pour attaquer Israël. Puis les hommes en Israël, on va quand même lire ça un petit peu cet après-midi, hein, parce que ça vaut la peine. Ça me donne le goût de vous le lire. Un vrai steak. Alors, vous voyez, mais je vais vous laisser aller vous le manger. Hein. Mais voilà que les hommes dormaient. Ah, les hommes, ils aiment bien dormir. Ben, les enfants d'Israël, les princes d'Israël, alors une femme qui se lève. Quand les hommes ne sont pas à leur place, Dieu suscite les femmes, elles sont là pour quelque chose. Et alors, c'est elle qui est employée pour réveiller l'esprit de Barak, du général hébreu. Hein? Et puis, alors, ils ont eu une victoire formidable, et puis, ils ont chanté un beau cantique. Ils étaient que deux pour chanter. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit ? Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Elle s'exhorte elle-même à se réveiller. Elle était pourtant réveillée, mais elle s'exhorte encore à se réveiller. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Chante un cantique. Puis elle chante avec Barak, le général qui est à côté d'elle, là. Puis tu chantes avec elle. Ils sont deux. Tandis que, quand, après la mer Rouge, ils étaient sortis victorieux, hein, de la mer Rouge, combien est-ce qu'ils étaient pour chanter avec la prophétesse Marie? 600 000 hommes de guerre qui pouvaient chanter. Ça, c'était une chorale. Hein. Ça, c'est le chapitre 15 de l'Exode. Ils ont chanté un cantique. Ils étaient 600 000 et plus, hein, les femmes et les enfants. Mais que l'on soit 600 000 ou que l'on soit deux, ce qui compte, c'est louer l'Éternel. Car un vrai réveil a comme caractère la louange. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Hein. Quand il y a un vrai réveil, il y a de la louange. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une chorale de 600 000 personnes. Vous pouvez être deux pour chanter les louanges du Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous permettre de lire ta parole, d'y entrer. Et nous voulons te demander que toutes les pages que nous ne connaissons pas encore, nous ayons le goût de les lire et d'y trouver une nourriture spirituelle. Parce que vraiment, nous faisons l'expérience depuis tant d'années que c'est ta parole qui nous fait vivre. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, et que nous ne pensions pas qu'il y a ici des privilégiés, mais que c'est à tous que tu veux donner cette parole. Pour ta seule gloire, Père éternel, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Sauveur, et par la toute-puissance du Saint-Esprit. Amen.